RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir, Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Une demi-heure d'actualité africaine avec au sommaire le Mali où la plus grande mine d'or du pays placée sous administration provisoire. Dernier épisode en date d'un bras de fer entre la junte au pouvoir et le groupe minier canadien Barrick. Les États-Unis menacent d'étendre les mesures restrictives sur l'entrée de ressortissants étrangers sur leur territoire. 36 nouveaux pays, dont 25 sur le continent africain, seraient visés par ces restrictions. À la une également en Guinée, le chef de la junte annonce la création d'une direction générale des élections. L'opposition dénonce un verrou militaire servant à maintenir le général poutiste à la tête du pays. Enfin, notre dossier consacré aujourd'hui aux répercussions économiques du conflit entre Israël et l'Iran en Afrique. À suivre, l'analyse de Benjamin Auger, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et on commence par le Mali, où le tribunal de commerce de Bamako a décidé ce lundi de placer sous administration provisoire pour 6 mois la plus grande mine d'or du pays. Le gisement de Loulo-Gounkoto, dans l'ouest, fait depuis 2 ans l'objet d'un bras de fer entre la junte malienne et le groupe minier canadien Barrick. Les autorités de Bamako espèrent reprendre les opérations de production stoppées en janvier dernier sur ce site aurifère stratégique alors que les cours de l'or sont au plus haut. Le récit de Claire Fage.
Le tribunal de commerce de Bamako a tranché, il retire au groupe minier canadien la direction opérationnelle de la mine de Loulo-Gounkoto pour la confier pendant 6 mois à un administrateur provisoire. Soumana Makadji, expert comptable et ancien ministre malien de la Santé, occupera ses fonctions. Il s'agit, selon l'agence TEMAC, en charge de la communication officielle sur les affaires minières, d'assurer, je cite, « la continuité de l'exploitation minière tout en préservant les intérêts de l'État malien ». La production d'or stoppée en janvier dernier par Barrick après la saisie de ses stocks pourrait donc reprendre sur le plus grand gisement aurifère non seulement du Mali mais d'Afrique l'an dernier avec 20 tonnes et demie d'or. L'administrateur provisoire peut théoriquement payer les salaires puisqu'il a accès aux comptes. Face à cette décision, Barrick, dont plusieurs employés restent emprisonnés, annonce qu'il maintient son arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends. Mais le groupe canadien signale qu'il reste engagé à dialoguer avec l'État malien qui détient 20% des parts dans Loulo-Gounkoto. De sources proches du dossier, les négociations se poursuivraient en sous-main entre les deux actionnaires de la mine d'or malienne.
Récit signé Claire Fage. Et toujours à propos du Mali, ce signalement déposé dimanche par plusieurs associations de la communauté Touareg sur le bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye, dans leur collimateur, les forces armées maliennes, les forces burkinabées et les mercenaires de l'Africa Corps, autrefois Wagner. Les associations Imouag International, Kel Akal, Diaspora des États-Unis et l'Association de solidarité avec l'Azawad les accusent de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. L'État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria, a conclu un accord de paix avec des gangs afin de mettre fin à des années de violence, annonce faite ce lundi par un représentant du gouvernement. Selon le commissaire de l'État de Katsina, l'accord est intervenu à l'issue d'une réunion de paix entre 12 chefs de gangs et les chefs des communautés locales. Réunion au cours de laquelle les bandits, comme on les appelle là-bas, ont renoncé à leurs activités criminelles et se sont engagés en faveur de la paix. Dans l'actualité également, Washington qui menace d'étendre la liste des pays interdits de voyage aux États-Unis. Une note interne du département d'État consultée par le Washington Post et Reuters indique que 36 nouveaux pays seraient visés par ces restrictions. Parmi eux, 25 États africains ont reçu ce week-end un câble diplomatique signé de la main du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les précisions de Paul Langerie.
L'information a créé la confusion dans certains ministères des Affaires étrangères. Sont notamment concernés la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Niger. Selon une source congolaise, des clarifications ont été demandées aux diplomates américains à Kinshasa. La ministre Thérèse Wagner, informée de la mesure, n'a pour autant pas reçu de correspondance sur le contenu de la note. Contacter une ambassade américaine dans l'un des pays concernés sur le continent n'a pas souhaité commenter la mesure. Selon nos confrères du Washington Washington Post et de Reuters, la sécurité d'État est invoquée comme principale raison à ces restrictions. Les autorités américaines avancent que les documents d'identité de certains de ces pays ne sont pas fiables et que la sécurité de leurs passeports est douteuse. Les pays mentionnés disposent donc de 60 jours pour se conformer aux attentes des États-Unis. Dans ce sens, l'ambassade américaine au Niger a communiqué sur X qu'aucun visa n'est délivré tant que toutes les préoccupations de sécurité ne sont pas résolues, avant d'ajouter que les demandeurs qui soumettent de faux documents s'exposent à des sanctions prévues par la loi américaine. Des restrictions qui s'ajoutent à celles imposées le 9 juin à 10 autres pays du continent, dont le Tchad, la République du Congo ou encore la Guinée équatoriale.
Pierre-Paul Lorgerie est parmi les pays africains visés par l'extension des restrictions imposées par Washington. Le Sénégal, mesure qui suscite dans le pays l'inquiétude des candidats au départ vers les États-Unis. Juliette Dubois, notre correspondante à Dakar, a pu le vérifier.
Beaucoup d'entrepreneurs comme Boubacar Djiba, qui travaille dans l'IA et les industries culturelles, ont tissé des liens durables avec les États-Unis.
Les États-Unis, ça fait partie des pays pour nous, en tant que start-up, qu'on doit visiter. Ça nous permet aussi de tâter le terrain, de rencontrer des business angels ou bien des investisseurs. Ça va vraiment enfreindre un tout petit peu cet élan.
Moussa Thiam, lui, est doctorant en médecine à Dakar. Il revient tout juste de plusieurs mois passés à Chicago et prévoit d'y poursuivre des études en santé publique et épidémiologie. Pour lui, si le Sénégal venait à figurer sur une liste noire, ce serait l'anéantissement de plusieurs années d'efforts.
En fait, ce serait un frein et ce serait encore un problème, c'est de repartir à zéro. Parce que on a vraiment travaillé pour l'obtention du visa. On a essayé de trouver un partenariat avec l'université de Northwestern de Chicago.
Il a entendu parler de cette menace et ne comprend pas.
Nous, ça nous interpelle un peu. On se dit que quelle peut être la raison de cette restriction. Parce qu'au niveau du Sénégal, qui est réputé être un pays de paix, un pays de stabilité, on n'a jamais peut-être entendu un problème ou bien soit des assassinats ou des attentats qui sont entraînés par nos compatriotes sénégalais.
Selon les informations du Washington Post, l'administration américaine estime que les pays concernés souffrent de problèmes de documents d'identité fiables, fraude gouvernementale ou encore de dépassement de durée des visas de leurs citoyens. Les pays ont jusqu'à mercredi pour fournir un plan d'action initial. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
RFI à Dakar, il est 22h37.
Abidjan 97.6 FM.
Même heure à Abidjan et la politique en Côte d'Ivoire avec l'annonce de la candidature ce week-end d'un indépendant. Antoine Tiemoko Assalé, c'est un ancien journaliste, il est député et maire de la ville de Tiassalé. Sa candidature est présentée comme une alternative au système politique classique. Correspondance à Abidjan, Binta Diagne.
Antoine Tiemoko Assalé affirme appartenir à la nouvelle génération d'acteurs politiques. À 49 ans, le député-maire de Tiassalé s'adresse aux jeunes. Il dit vouloir lutter contre la corruption. Antoine Tiemoko Assalé veut supprimer les institutions et postes jugés budgétivores. Il promet enfin de réformer l'école et de mettre à plat les problèmes fonciers. Dans le même état d'esprit, l'ancien préfet d'Abidjan a annoncé sa candidature le mois dernier. Ces candidatures viennent rompre avec la routine instaurée par les partis politiques depuis 30 ans, indique le politologue Geoffroy-Julien Kouao. Seulement, les indépendants doivent surmonter deux barrières, la collecte des parrainages et la caution fixée à 50 millions de francs CFA. « Nous misons sur une collecte dans 17 régions », explique Israël Guébo, premier vice-président de l'ADCI, aujourd'hui demain la Côte d'Ivoire, ce mouvement citoyen lancé il y a un an par le député-maire de Tiassalé. Pour l'élection de 2020, sur 44 candidatures, seulement 4 avaient été retenues par le Conseil constitutionnel. Plusieurs dossiers avaient été retoqués à cause de l'insuffisance ou de l'irrégularité des parrainages. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et on reste en Côte d'Ivoire, une nouvelle mine d'or de classe dite mondiale a été découverte dans le nord-est par l'entreprise australienne Resolute Mining Limited. Annonce faite ce lundi par le gouvernement ivoirien. Le gisement contient, nous dit-on, 100 tonnes d'or. Il est considéré comme l'un des plus importants du pays. Son exploitation devrait générer plus de 2800 emplois selon le gouvernement. Longtemps centré sur l'agriculture et notamment la production de cacao, l'économie ivoirienne s'est tournée ces dernières années, vers les richesses de son sous-sol, avec notamment la découverte d'importants gisements de minerais, de pétrole et de gaz. La Guinée se dote, elle, d'un nouvel organe électoral, la Direction générale des élections, c'est la DGE. Cette instance a été créée ce week-end par décret du président de transition, Mamadi Doumbouya. La DGE est officiellement chargée d'organiser les élections politiques et les référendums sur l'ensemble du territoire. Mais ce nouvel instrument, placé sous la tutelle du ministre de l'administration territoriale, est déjà accusé par l'opposition d'être un verrou militaire servant à maintenir le général putschiste à la tête du pays. Explication, Sidi Hansané.
Comme d'habitude, le décret créant la direction générale des élections a été entièrement lu à la télévision, juste après celui promulguant la loi pour la tenue du référendum constitutionnel prévu en septembre, et celui faisant du ministère de l'administration territoriale le seul habilité à organiser des scrutins dans le pays. La nouvelle DGE est donc sous tutelle du gouvernement, mais son directeur, son adjoint, ainsi que tous les directeurs régionaux, préfectoraux et communaux sont directement nommés par le chef de l'État. Le nouvel organe remplace la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dont la fiabilité a toujours été remise en cause tant les pressions politiques de toutes parts étaient importantes. Cette DGE va recréer la confiance entre le peuple et l'État, estime le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Mais pour les partis d'opposition, notamment l'UFDG et son chargé de communication Souleymane Souza Konaté, la DGE est un verrou militaire sur le processus électoral, permettant au président Mamadi Doumbouya de confisquer le pouvoir.
Explication signée Sidi Yansané, RFI 22h41 en temps universel, RFI qui n'est d'ailleurs plus diffusé au Togo depuis cet après-midi. La HAC, l'organisation de régulation des médias dans le pays, a décidé de suspendre nos programmes pour une durée de 3 mois, sanction qui s'applique également à la chaîne France 24. La HAC accuse RFI et France 24 d'avoir relayé des propos inexacts et tendancieux après les manifestations qui ont secoué le pays en début de mois. Dans un communiqué, RFI et France 24 déclarent avoir appris avec surprise leur suspension sans préavis de leur diffusion. Les deux chaînes réaffirment leur attachement indéfectible au principe déontologique du journalisme et déclarent se saisir de l'invitation de la HAC à une réflexion concertée afin, je cite, de lever tout malentendu et pouvoir poursuivre leur mission d'information dans le pays. Une suspension condamnée par Reporters sans frontières. Écoutez Camille Montagu qui travaille au bureau Afrique de l'organisation.
Reporters sans frontières condamne fermement la suspension arbitraire de France 24 et de RFI au Togo pour une durée de 3 mois à compter du 16 juin. Cette décision, prise par la Haute Autorité audiovisuelle et de la communication, elle constitue une grave atteinte à la liberté de la presse et au droit à l'information. Suspendre ces deux médias internationaux qui n'ont fait que traiter de manière professionnelle les récentes actualités politiques du pays n'effacera pas les turbulences traversées par le Togo. C'est une suspension qui intervient également 10 jours après l'interpellation de la correspondante de TV5 Monde, Flore Monteau, alors qu'elle ne faisait que couvrir une manifestation dispersée par les forces de l'ordre dans un quartier de Lomé. RSF appelle donc les autorités à lever cette sanction et à rétablir immédiatement la diffusion de ces deux médias.
Voilà Camille Montagu du bureau Afrique de Reporters sans frontières, joint par Pierre Fiercian. La guerre entre l'Iran et Israël aura-t-elle des répercussions économiques en Afrique? A priori peu, en tout cas pour le moment. Notez par ailleurs que l'Iran produit 3% du pétrole brut mondial, mais il est soumis à l'embargo américain. À cause de cette sanction d'ailleurs, rétablie en 2018, le pays vend presque la totalité de sa production à la Chine. Pour l'Afrique, les répercussions du conflit entre Israël et l'Iran vont surtout concerner les prix du pétrole qui ont augmenté de 9% depuis les premières frappes d'Israël sur Téhéran. C'était le 13 juin. Alors quels sont les enjeux économiques pour le continent? Élément de réponse avec Clotilde Hazard.
À première vue, le continent africain semble à l'abri car il détient 12% des réserves mondiales de pétrole brut et de récentes découvertes de gisements majeurs comme le gisement Baleine en Côte d'Ivoire ou Sangomar au Sénégal confirment la capacité importante de production des pays d'Afrique, avec en tête le Nigeria, la Libye et l'Angola qui produisent plus d'un million de barils par jour, puis vient ensuite l'Algérie, puis l'Égypte. Mais ces chiffres concernent le pétrole brut, hormis le Nigeria, le Tchad et le Niger. Tous les pays africains importent plus de pétrole qu'ils n'en raffinent, car ils n'ont pas assez d'infrastructures pour remplir leurs besoins de consommation. Chaque année, près de 30 milliards de dollars de pétrole sont importés sur le continent. Si les pays producteurs pourraient profiter de la hausse des prix sur le marché mondial pour leur exportation de brut, le prix des importations de pétrole raffiné compenserait négativement ces gains, et ce, dans des économies peu diversifiées, extrêmement dépendantes du cours des matières premières. Seul le Nigeria, premier producteur du continent, pourrait tirer son épingle du jeu grâce à la raffinerie de Dangote, près de Lagos, qui permet depuis peu de raffiner 650 000 barils par jour, soit 3 fois plus que la consommation du pays.
Alors, quelles seront précisément les conséquences économiques de ce conflit pour l'Afrique? Réponse de Benjamin Auger, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, au téléphone de Clotilde Hazard.
Bon, il y aura une conséquence pour le continent comme pour tous les continents du monde, c'est-à-dire que c'est probable que le prix du baril augmente de façon, pendant quelques jours, en tout cas pendant la durée du conflit entre l'Iran et Israël, mais il ne faut pas oublier que le prix du baril est déjà extrêmement faible et que le marché est très très bien approvisionné, et donc je pense que ça aura un effet plutôt négligeable et de courte durée sur le marché international. Donc la conséquence sur le continent africain, c'est que les prix de l'essence vont augmenter dans quelques mois du fait de la crise, mais ils sont déjà, comme je l'évoquais tantôt, plutôt bas comparé à certaines autres années où il y avait plus de tensions dans le marché.
Et si le conflit dure ?
Si le conflit dure au niveau des prix du baril, peut-être qu'ils vont un petit peu augmenter, mais la réalité est que à partir du moment où votre marché est très très bien approvisionné et que les tensions géopolitiques n'ont pas de conséquences sur la production et sur l'acheminement du pétrole, pas oublier que l'Iran est un producteur négligeable de pétrole, malheureusement, du fait des sanctions depuis très 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 longtemps. La République islamique d'Iran produit 3 millions de barils par jour à peu près. Elle n'en exporte que 2 millions sur un marché actuellement de 100 millions. Ça aura un impact probablement limité dans le temps et dans les volumes.
Est-ce qu'on peut s'attendre à des prises de position des pays africains vis-à-vis de ce conflit qui s'intensifie entre les deux pays ?
C'est pas impossible que certains pays africains considèrent justement que ce que fait Israël en Iran est une agression, et qui le communique et qui se base vraiment sur le droit international, comme l'Iran n'a pas attaqué et que Israël a attaqué, pour condamner. Mais je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça, parce que les pays africains n'ont rien à gagner à avoir un avis sur la question. C'est un dossier très 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 périphérique pour eux. Et l'image d'Israël en général en Afrique est extrêmement dégradée, et pas que dans les pays principalement sunnites musulmans. L'image d'Israël est très très mauvaise, et donc en fait, s'il y a un communiqué, ça sera un communiqué plutôt des ministères des Affaires étrangères pour rappeler le droit international, et c'est tout. Et probablement que certains pays éventuellement seront en soutien de l'Iran, mais ça sera extrêmement minoritaire pour les raisons que j'ai évoquées au début.
Voilà pour l'éclairage de Benjamin Auger, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, pour ce dossier consacré à l'impact du conflit entre Israël et l'Iran sur l'Afrique. Dossier signé Clotilde Hazard. Du football à présent, avec un détour par les États-Unis pour la suite de la Coupe du Monde des clubs. Après l'entrée en lice d'Al Ahly lors du match d'ouverture, c'est l'Espérance de Tunis qui entame donc son aventure, et c'est face aux Brésiliens de Flamengo. Coup d'envoi 1h temps universel la nuit prochaine. Cédric de Oliveira, des Tunisiens qui sont arrivés aux États-Unis avec beaucoup d'ambition.
C'est un des plus grands clubs d'Afrique, avec 4 Ligues des Champions, 9 finales disputées au total. Le club espérantiste a l'habitude des grands rendez-vous. Mais au moment de défier les Brésiliens de Flamengo, l'entraîneur Maher Kanzari concède que le moment sera spécial pour les Tunisois.
On affronte Flamengo, une équipe très respectable, dans un tournoi important et prestigieux. Mais on est prêt pour être à la hauteur des attentes de nos supporters.
Depuis son doublé Coupe Championnat cette saison, l'Espérance semble obnubilée par ce mondial des clubs. La direction sang et or a même lancé un maillot spécial pour cette nouvelle compétition, le moyen de se jauger avec d'autres types de football.
C'est très motivant pour nous, pour les joueurs et pour toute la délégation. Il n'y a que du positif, c'est ce qui nous donne envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous espérons faire plaisir aux supporters qui ont fait le déplacement et à ceux qui sont restés en Tunisie, c'est capital.
Placé dans une poule C où figurent également Los Angeles et Chelsea, l'Espérance de Tunis peut compter sur son meilleur buteur cette saison, l'imprévisible Youssef Belaïli. Elle aura besoin de son attaquant algérien en grande forme pour au moins se hisser en huitième de finale.
Cédric de Oliveira, Espérance de Tunis, Flamengo, coup d'envoi 1h temps universel à Philadelphie. À suivre également dans le même groupe, Chelsea, Los Angeles à partir de 19h temps universel. Pour l'heure, il est 22h. Et 49 minutes en temps universel, justement. Le rappel des autres comptes.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Au quatrième jour d'une escalade militaire meurtrière entre Israël et l'Iran, le premier ministre israélien affirme que son pays est en train de changer la face du Moyen-Orient avec son attaque sans précédent sur l'Iran. Benjamin Netanyahou s'exprimait au cours d'une conférence de presse quelques heures après une frappe israélienne contre le bâtiment de la télévision d'État iranienne qui a brièvement interrompu sa retransmission. Une nouvelle polémique sur la présence d'industriels de l'armement israélien a marqué le premier jour du salon du Bourget, où Airbus occupe le terrain commercial avec de multiples commandes. Son concurrent Boeing reste en discret après le crash meurtrier de l'un de ses appareils en Inde. Et puis aux premières heures du plus grand salon de l'aéronautique et de la défense au monde, organisé au nord donc de Paris en France, plusieurs stands israéliens de l'armement, notamment exposant des armes offensives, ont vu leur accès condamné sur décision du gouvernement français, provoquant la colère d'Israël. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite à Vienne a dit vouloir parler lui avec son homologue américain Donald Trump de l'achat par Kiev de matériel militaire à Washington. En temps universel, l'heure de notre dossier économie consacré aujourd'hui aux difficultés du secteur du coton en Côte d'Ivoire. Et c'est dans le nord du pays que ça se passe. Depuis l'invasion des champs de coton par des insectes ravageurs, le nombre de producteurs d'or blanc a chuté ces trois dernières années. La production de coton en graines, 559 000 tonnes en 2020-21, a plongé de 50% selon Intercoton, l'interprofession cotonnière. Des solutions ont bien été trouvées avec l'appui du Centre national de recherche agronomique, mais la déprime des cotonculteurs est toujours palpable alors qu'ils s'engagent dans une nouvelle campagne. Premier volet de notre série sur le sujet avec ce reportage signé Binta Diagne.
Mamadou Siloué est producteur de coton. Son neveu l'aide à préparer les sols. À cette étape, il utilise la force d'une charrue tractée par deux bœufs. Depuis la crise des jacides, ce producteur a décidé de réduire les surfaces dédiées au coton.
Avant l'arrivée des jacides, je faisais 23 hectares de coton et 2 hectares de riz. Mais compte tenu de l'arrivée des jacides, donc j'essaie de diminuer les champs en faisant 15 hectares de coton. Et le reste est réparti, une partie pour le riz et une partie pour le maïs. On utilise une partie et le reste on vend.
Ces producteurs sont confrontés à un problème, la baisse des rendements, comme l'explique Salia Koulibaly, un autre cotonculteur.
Avant, si vous faisiez bien le travail, vous pouvez voir 2 tonnes à l'hectare. L'année passée, on n'a pas eu 1 tonne 10, ça a diminué à l'hectare.
Selon des scientifiques, cette baisse des rendements est en partie liée au changement climatique, mais aussi à la baisse de fertilité des sols, comme le constate Jérôme Kouassi, assistant chercheur au Centre international de recherche en agroforesterie.
À force d'utiliser les mêmes parcelles au fil des années, on a un épuisement des réserves, des éléments dont la plante a besoin pour pouvoir véritablement se développer. Et aussi le fait que les applications d'engrais ne sont pas faites sur la base de l'analyse des sols, on peut apporter des éléments en trop qui ne sont pas nécessaires, qui au fil du temps, au lieu que ces éléments-là puissent contribuer à la productivité, ces éléments-là vont contribuer plutôt à la baisse de cette productivité-là.
Les sociétés cotonnières qui encadrent les producteurs ressentent fortement cette baisse des rendements, à l'image de la compagnie ivoirienne de coton. Adama Tchelibé Siloué, son directeur général, s'interroge sur l'avenir de son activité.
Je travaille avec près de 30 000 producteurs. Et comme ça fait 2 ans que les rendements ne sont pas bons, ils sont beaucoup endettés. Ne pouvant pas rembourser sa dette, il est découragé pour les campagnes à venir. Et en temps normal, on égrenait de novembre jusqu'en avril. Mais aujourd'hui, quand vous démarrez en novembre, en février, le coton est fini. Nos usines, nos investissements, on commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que va devenir nos investissements? Les bilans commencent à être négatifs pour les sociétés cotonnières.
Autre source d'inquiétude, d'après ce responsable, la présence d'une autre forme de jacide détectée dans plusieurs parcelles. Binta Diagne, de retour de Korogo. RFI
à Korogo, il est actuellement 22h54. Alors que trouve-t-on dans les bacs de RFI Musique cette semaine? Franck Baudin de la rédaction web de RFI est avec nous pour répondre à la question. Bonsoir Franck.
Bonsoir Zéphirin et bonsoir à tous.
Et on commence notre tour d'horizon de l'actualité musicale avec cet artiste né au Nigeria et qui s'appelle Obong Jaya. My holy mountain, no. I wasn't looking, but I found you, no. My holy mountain, no.
Alors,
Il est né au Nigeria, mais c'est depuis l'Angleterre qu'il opère. Le chanteur basé à Londres est entré dans le circuit de la production musicale il y a une dizaine d'années déjà. Il a un style assez personnel avec des influences afrobeats, pop, soul, folk. C'est une recette dont il a le secret et qui lui confère un goût unique. Après un premier album studio sorti en 2022, il est de retour avec un deuxième disque intitulé Paradise Now. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à lire le portrait de Bong Jaillard signé Pablo Patarin sur notre site internet. Et pour vous donner envie, voici un petit extrait avec ce titre Holy Mountain. C'est tout frais, ça vient de sortir.
Holy Mountain du chanteur nigérien Obong Jaillard. Et on prend maintenant, Franck, la direction de Toulouse. Un petit tour hein, du côté de Toulouse, dans le sud de la France, où se tenait le festival Rio Loco ces derniers jours.
Je voulais pas me voir briller, qu'est-ce que ça t'a loupé? À la base, je viens de la cité où le bâtiment cache le soleil.
Tout à fait, c'est un événement qui a contribué à faire l'histoire des musiques du monde et qui tenait sa 30e édition la semaine dernière. Notre reporter Anne-Laure Lemancel s'est rendue sur place pour assister à cette édition anniversaire sur le thème galactique de la supernova. Il y avait des têtes d'affiche connus du Rio Loco comme les Antillais de Kassav, le Malien Salif Keita et le roi du Mbalar sénégalais Youssou N'Dour. Et parmi les étoiles se trouvait le très jeune Djoundjeli, ce chanteur congolais fan de Fally Ipupa et qui est actif en France. Et si je dis très jeune, c'est parce qu'il n'a que 16 ans. Je crois même qu'il est en train de passer le bac en ce moment. Ça vous rappelle de bons souvenirs, Zéphirin, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Voilà, le reportage complet au Rio Loco est à lire sur RFI.fr. Et nous, on écoute briller de Djoundjeli.
Je me rappelle quand j'avais rien, quand j'étais studio. Par-ci, par-là. Rappelle quand j'étais solo, c'est à peine qu'on venait me cala. Ah, cette ville-là j'ai quitté. Maintenant j'ai quitté ma peste quand petit est piqué. Mais moi j'ai je voulais pas me voir briller, briller. Qu'est-ce que ça t'a loupé? À la base, je viens de la cité, le bâtiment cache le soleil. Tu voulais me voir zoner, zoner, bloqué dans mes projets. Tant que c'est Dieu qui donne ma chérie, j'irai vers le.
Briller de Djoundjeli. Et on reste au festival Rio Loco, mais on change de style, hein, Franck. Cette fois-ci pour de l'électro.
C'est un nouveau produit musical que nous venons de lancer sur la chaîne YouTube de RFI Musique. Le principe est simple, c'est une session live de DJ filmée en plein festival devant le public. Nous venons de mettre à disposition 4 épisodes de 90 minutes chacun, dans lesquels vous retrouverez la Kenyane Coco M, la Marseillaise Mystique ou encore la Parisienne Andy 4000. Des vidéos musicales que vous pouvez passer pour accompagner vos soirées. Le programme s'appelle Dans la Mixbox de RFI Musique. En voici un aperçu avec ce mix du DJ ougandais Faisal Mostrix. Eh bien, c'est sur cette escapade dans l'univers du DJ ougandais Faisal Mostrix que s'achève cette édition d'Afrique Soir réalisée par Raphaël Lazizi, rédactrice en chef Pinaï Traoré, assistée de Simon Bibaudin. Merci à tous les trois et surtout, merci à vous de l'avoir suivi. Dans une minute, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet Actu de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.
Real World 3D Family et RFI Talent présente les Amazones d'Afrique. Retrouvez ces divas panafricaines sur la scène du parc Raspail à Cachan, près de Paris, le 20 juin à partir de 19h30 dans le cadre de la fête de la musique. Plus d'infos sur lesamazonesdafrique.com.